faut un peu me...
Alors, mais je vais vous guider.
Ouais, il faut me guider, ouais, vous me posez des questions, ça ira mieux, sans quoi...
Bon, tout d'abord, je vous remercie de témoigner pour notre, dans le cadre de cet atelier. Comment avez-vous été amené à souffrir de dépendance à l'alcool?
Ouais, c'est une assez longue histoire. Ça commence à la jeunesse, on boit un verre, on boit deux verres, on sort avec les copains. Et puis après, on arrive dans la vie active, on fait un travail qui ne nous plaît pas vraiment. Donc on se referme sur soi-même. Et puis on se met à boire, à boire, à boire, pour éviter de... pour oublier. Et puis qu'on se rend compte qu'on est dans cet engrenage, et bon, on ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Alors aujourd'hui, on se dit, bon, c'est le dernier verre, demain on ne boira pas, et puis on n'est pas bien, on commence par se trembler, avoir des sueurs froides. Donc on prend un verre pour que ça se passe. Puis ça se passe un peu, puis après ça s'empire, et puis c'est l'engrenage sans fin.
À quel moment vous avez-vous pris conscience que vous étiez... que vous deveniez dépendant?
Eh bien, qu'on est obligé de boire pour éviter de trembler, surtout je pense que ça commence par ce tremblement qui est incessant, et mal à l'aise dans la foule, toujours angoissé, et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est plus de ce qu'on était avant, quoi. Et en plus, quand on est marié, qu'on a deux enfants qui avaient à l'époque, je ne vais pas raconter de bêtises, 5 et 3 ans. Non, je vous raconte une bêtise. Ils avaient 10 et 12 ans. Donc, je les ai vus m'emmener au lit. Donc, après, ça, on se dit, il faut prendre une solution. Donc, avec mon médecin traitant, René, j'ai été le voir une première fois. Il m'a fait hospitaliser au centre hospitalier de Guéret. Ça n'a pas marché du tout. Je suis revenu, je me suis remis à boire. J'ai été hospitalisé une deuxième fois. Là, grâce à une infirmière que je connaissais hors l'hôpital, m'a dit « Christophe, moi je connais un centre à Chaisselle-Benoît. » Donc j'ai ressorti du centre hospitalier de Guéret. Je suis allé voir René, je lui ai donné l'adresse, René a appelé, et on y rentre tous les jeudis, donc j'ai attendu 8 jours. Alors là, je pense que ces 8 jours, c'était les 8 jours les plus longs de ma vie. Il a dit à ma femme, ce serait bien de lui donner à boire, pour pas qu'il fasse de crise d'épilepsie. Et je me rappelle très bien, ma femme m'amenait tous les jours, tous les midis, une bouteille de Ricard, que je buvais dans la journée. Voilà, donc c'était horrible. Donc je suis allé une première fois à Chaisselle-Benoît, j'y suis resté 5 semaines.
Où ça, hein?
Chaisselle-Benoît, dans le Cher.
D'accord.
C'est un centre spécialisé. J'y suis resté 5 semaines. Tout s'est bien passé, et au bout de 5-6 mois, j'ai replongé. Donc j'y suis retourné. Mais ça, c'était en 2013. Et depuis, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Voilà. Et après, j'ai pris goût, évidemment, à la vie familiale, à la vie sociale, tout. J'ai repris mon activité préférée, la chasse. J'ai même repris le foot. J'ai suivi mon fils au foot. Voilà, quoi. J'ai repris une vie normale.
Alors, vous dites que ça a été insidieux, en fait. Je reviens sur la progression. Vous vous êtes pas rendu compte. C'était simplement... ça a été progressif.
Au départ, c'était festif.
Il n'y a pas eu un élément particulier qui vous a fait...
Alors, j'ai perdu mon père. Après le décès de mon père, alors là, ça a été la descente aux enfers. C'était encore pire. Et puis voilà, quoi. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un engrenage. Un engrenage, on ne peut pas... c'est un truc qu'on n'arrive pas à contrôler. Quand on est dans ce système, on peut pas contrôler.
Moi, et que buviez-vous plus?
Principalement du Ricard ou de l'eau de vie. Mais alors le Ricard, je buvais à la fin pur. Et je me levais la nuit à peu près comme un nourrisson, toutes les 3 heures, je me levais boire.
Comme un nourrisson.
Voilà, c'était impressionnant.
Ah oui.
Et le sevrage, c'est quelque chose de terrible. Et il nous donne du Valium et à pas pouvoir boire son, à pas pouvoir prendre son verre pour boire. Je me rappelle, je buvais au bro, je transpirais de partout, une odeur de sueur, c'était infect. Et ça dure entre 24 et 48 heures. Hein. Voilà.
Oui, vous revenez là au sevrage. Donc, comment était organisé ce sevrage dans ce centre spécialisé?
Alors le sevrage, on rentre bien sûr à l'admission, après on a une chambre, on a le test alcoolémique, le test. Par rapport au test, eh ben, ils nous mettent dans une chambre. Moi, la première fois, j'y suis arrivé, je crois que j'étais à 2 grammes, je ne sais plus combien, c'est enfin un truc énorme. Il m'avait pris ça à 9 h du matin et à 14 h j'étais encore à 1 gramme et quelques. Et là, les tremblements commençaient à arriver. Non, pour pas trembler, je ne sais pas combien j'étais avant. J'avais peut-être, je sais pas, 1 gramme 80, 2 grammes, je ne sais pas. Parce qu'à 2 grammes, je marchais normalement. Mon corps était vraiment pris par l'alcool, c'était vraiment un besoin, c'était quelque chose d'horrible. Donc alors on est admis, et puis soit on mange en chambre, au moment pour le sevrage, les 24-48 heures, on reste en chambre, ils nous apportent à manger et tout, on a des médicaments toutes les heures à prendre. Et puis après, bien évidemment, on commence à refaire un peu surface. Après, il y a des ateliers. Des ateliers, il y a des groupes de parole, il y a des gens de Châteauroux, une association qui venait toutes les semaines ou tous les 15 jours, je ne me rappelle plus, le mercredi. On parlait, c'était très intéressant. Et puis après, ben, on se fait des amis aussi qui sont dans le même cas que nous. Donc la première fois, je vous dis, ça n'a pas fonctionné. Et donc j'étais un peu déçu, je me suis dit j'y arriverai pas. Et la deuxième fois, quand j'y suis allé, il y avait une infirmière qui m'a dit de toute façon, on savait très bien que vous alliez revenir, vous n'étiez pas prêt. Et pour le moment, ben, oui, depuis 2013, 2013, j'ai pas touché une goutte d'alcool. Voilà. Et après, 4 ans après, j'ai arrêté le tabac. On a parlé avec René, je voulais arrêter le tabac tout de suite, il n'a pas voulu. Il m'a dit non, il faut attendre un petit peu. Et 4 ans après, il m'a dit tu peux arrêter le tabac.
Vous fumiez beaucoup?
Ouais, je fumais un petit paquet par jour. Et du coup, ma femme fumait aussi, elle a arrêté en même temps que moi. Voilà. Je peux dire un grand merci à René parce qu'il m'a vraiment épaulé. J'allais le voir tous les mois pour mon renouvellement de médicaments, prise de sang régulièrement pour voir le niveau des gamma, le niveau aussi, le volume globulaire moyen, si c'était élevé ou pas. Il m'a vraiment, vraiment soutenu.
Oui, vous avez eu cette chance d'être bien, bien
Et puis,
orienté.
mon entourage, toute ma famille. Toute la famille était
Comment
là.
votre famille précisément vivait tout ça et comment ils vous ont soutenu finalement?
Eh bien, ma femme le vivait très très mal, mes enfants aussi. C'était pas évident. Je me rendais bien compte que ils n'étaient pas heureux, mais je vous disais qu'on est dans cet engrenage, on n'arrive pas. On ne sait pas la comment faire pour en sortir. Mais je pense après qu'on a le déclic et qu'on est conscient qu'on est alcoolique, et ben on se dit il faut faire quelque chose. Après j'avais aussi honte du regard des autres en me disant oui je vais me faire soigner, ils vont dire ah il boit que de l'eau. Et je me rappelle d'une réflexion de René qui m'a dit non, au contraire, tu seras fier parce que là au moins tu auras acquis quelque chose, tu auras arrivé à te sortir de ce truc-là. Quoi.
Voilà. Oui, il y a cet engrenage au niveau des copains.
Eh bien, oui, les copains, on les... Alors, ça, c'est pareil. Les copains, quand on est dans ce... Enfin, quand on est en face, pas face à terminale, mais qu'on est vraiment pris par l'alcool, on les voit plus. Mais au départ, on les voit beaucoup. Après, quand on est arrivé presque une loque, là, on les voit plus. Et puis, après qu'on se fait soigner, les copains, ils sont faciles à compter, ceux qui reviennent. Moi, j'en ai 2-3 maximum. Mais après, les autres, les copains de Beuvris, on peut dire, on les voit plus aussi.
Ah oui, oui.
Voilà.
Vous expliquez comment ?
Je pense que c'était tout simplement par intérêt de venir boire un verre.
Hein. Oui, c'était
tout simplement, c'était pas par amitié.
Oui.
Voilà.
Et le regard des autres, vous dites...
Le regard des autres me faisait peur, mais alors maintenant, pas du tout. Hein. C'est une chose qui me dérange pas du tout. Je vais dans une manifestation, je bois un jus de fruits, je bois un Perrier. Alors maintenant je dis, avant je disais je ne bois plus d'alcool. Maintenant je dis je ne bois pas d'alcool.
C'est pas pareil.
Voilà.
C'est bien. C'est un pas. Qui change.
Et j'avais un copain de boulot qui avait le même problème. Et j'avais réussi à le convaincre à aller justement dans ce centre, là, chez El Benoît. Et il y était, mais il n'a pas arrivé. Hein, il y était 2 fois, voire 3 fois. Et puis il est fini par décéder de l'alcool. Il est mort, le pauvre. Mais enfin, c'était notre situation. Il n'avait pas vraiment de famille pour l'aider. Et tous ses copains l'avaient laissé tomber. Il n'y avait vraiment plus personne. Et quelqu'un qui était très gentil, hein, à la fin, moi, la dernière fois que je l'ai vu, il était agressif.
Ouais. Ouais. Vous insistez beaucoup sur l'aide familiale que vous avez eue. Elle se manifestait comment ? Parce qu'il pourrait y avoir du découragement de la part des proches.
Ah ben, l'aide familiale, je jouais avec ma femme, elle avait toujours quelque chose, on pourrait aller là, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et j'avais, comment vous dire, il n'y avait pas de temps mort. J'avais ma soeur, mon beau-frère, mes neveux, de mon côté, j'avais du côté de ma femme, pareil, mes belles-soeurs, beaux-frères ont été là, me passaient un coup de téléphone, toujours... Toujours quelqu'un pour mes beaux-parents, aussi ma mère, des femmes, ma mère, qui était encore là à l'époque, qui me soutenait. Et tout le monde. Et puis René a vraiment fait un super travail, je la remercie.
Et avec vos enfants, vous en parlez, parlez très librement, vous avez pris de la distance.
Ah oui, on en parle très librement, on en rigole même des fois. Sur le coup, on n'en rigolait pas, mais maintenant on passe ça à l'humour, quoi. C'est du passé, quoi. Il n'y a plus de... Après que j'ai été soigné, l'année d'après, avec mon fils qui fait beaucoup de vélo, qui fait beaucoup de sport... On partait en vacances du côté, comme tout bon creusois, du côté d'Orvoyant, et on allait faire du vélo, on faisait 2 heures de vélo tous les matins, vraiment repris une vie normale, quoi, une vie de famille. Et je pense que l'alcoolisme, il ne faut pas avoir peur d'en parler, parce que c'est une maladie qui est reconnue, c'est une maladie, vu la conjoncture actuelle. C'est obligé qu'il y ait des gens qui craquent pour plus penser à leur désarroi. Ils se mettent soit dans l'alcool, soit dans la drogue. C'est une maladie, quoi.
Oui.
Mais il faut arriver à faire. Moi, je pense que il faut arriver à se rendre compte qu'on est alcoolique. Si on s'en rend pas compte et si on veut pas se soigner, c'est voué à l'échec. Si ça vient pas de la personne concernée, de prendre la décision d'aller se faire soigner. Moi, quand je suis allé deux fois au centre hospitalier de Guéret, moi, je pensais qu'il y a une chose ressortir pour reboire, hein, parce que non, c'était pas dans ma tête. C'était pas le bon moment. Et la première fois chez El Benoît, c'est pareil, c'était pas le bon moment, je pense. Mais la deuxième fois, j'ai dit là, on.
Et il y a quelque chose qui a fait que ça a été le bon moment?
Ah, ça, je peux pas vous dire. Ça, je sais pas. Il y a eu,
Bon, il y a le moment où il faut avoir conscience avoir conscience de l'alcoolisme, il faut être décidé à faire quelque chose, mais il n'y a pas eu quelque chose qui a provoqué le fait qu'à un moment vous avez été prêt pour vous en passer de l'alcool.
Mais je pense que le premier sevrage, je l'avais pas très bien vécu parce que c'est quelque chose de lourd. Mais le deuxième est encore pire. J'ai eu peur de replonger dans l'alcool et revivre une troisième fois cette expérience, parce que c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Et plus maintenant, mais après. J'avais encore peur de comment vous dire de replonger malgré moi. Et ça, même j'en ai fait des cauchemars. Hein. Je cauchemardais que je m'étais remis à boire.
En tout cas, après cette deuxième cure, vous n'avez plus du tout
Ah
été
non.
temps.
Non, non. Non, sans aucune tentation, surtout une peur de reboire.
Vous parliez de votre mère. Votre mère était encore de ce monde.
Oui.
Comment est-ce qu'elle vous vivait ça et comment elle vous interpellait?
Ah ben, elle était. A été
Votre
désespéré.
père était plus là,
Non, mon
donc.
père était plus là. Ah non, parce que au décès de mon père, alors là, c'était la descente aux enfers. J'ai fermé les portes à tout le monde et je me suis mis vraiment à boire. Et j'emmenais même de l'alcool sur mon lieu de travail. C'était impressionnant. Ah oui, mais toute ma famille était savait pas vraiment comment me prendre quoi, comment parce que j'envoyais tout le monde promener, j'étais.
Alors, votre père, ça semble avoir été très très douloureux pour vous là.
Ah oui. Oui, il est décédé d'un.
Comment vous le présenteriez?
Un cancer du poumon et mon père, comment dire, ça flashait entre nous, mais on était proches et quand j'ai perdu mon père, j'ai perdu un gros pilier quoi. C'était quelqu'un de. On pouvait avoir confiance en lui, c'était. Et là, je me suis retrouvé un peu démuni quoi.
Et au travail, vous dites que
Ah ben au travail,
vous emportiez votre bouteille.
oui, parce que je travaillais sur Guéret, il y avait un magasin sur Guéret, donc je travaillais sur Guéret, j'étais tout seul le responsable du magasin, donc ben évidemment j'emmenais à boire et puis je buvais tout seul. Donc et ben le patron s'en est rendu compte, il m'a sermonné, il m'a envoyé de lettres recommandées. Donc c'est là, ça m'a fait prendre aussi cette décision la première fois de vouloir me faire soigner. Et donc je suis revenu sur le site de Genouillac. Oui, sur le site de Genouillac, j'ai été soigné sur le site de Genouillac une première fois. Ça n'a pas marché, j'ai été soigné une deuxième fois sur le site de Genouillac. Mais bon, c'est vrai que j'ai eu des patrons qui, bon, que je connaissais avant. On a une relation un peu particulière. Ils ont tout fait pour que je m'en sorte. Comment dire, ils m'ont pas menacé de licenciement, ils m'ont pas, au contraire, quand je leur ai dit j'avais pris ma décision d'aller me faire soigner, ils étaient très contents. Et j'ai été accueilli après, même à mon deuxième sevrage, quand je suis revenu au travail, ils m'ont fait aucune réflexion. Même au niveau de l'entreprise, oui, ils m'ont soutenu, oui, je peux dire qu'ils m'ont soutenu.
Vous avez bénéficié d'un environnement exceptionnel.
Oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de
À
chance.
tout point de vue,
Oui,
votre
oui,
médecin, votre famille,
oui.
évidemment, vos travail.
Même mes collègues de travail. Hein. Même mes collègues de travail. Et puis bon, j'en parlais assez librement, et puis j'en parle encore librement. Il n'y a pas.
Parce qu'il est évident que l'environnement est important
Ouais.
pour en sortir.
Ouais, si on n'a personne autour de nous, je pense que c'est très dur. Il y a toujours un moment de faiblesse. Il y a toujours un moment de faiblesse. Et si au moment qu'on a ce moment de faiblesse, si on n'a personne pour nous donner un coup de pouce, et ben je pense qu'on replonge. On replonge.
Vous n'avez pas été tenté d'aller soutenir d'autres personnes dans des associations? Non.
Et on m'a proposé justement l'association de Châteauroux m'avait proposé d'aller témoigner à Chazelle Benoît. Je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas pourquoi.
Vous le faites aujourd'hui,
Et
d'une certaine
oui,
façon.
oui. Quand René m'en a parlé, c'était, je ne sais plus, au mois de mai, par là, peut-être qu'il m'en a parlé. J'ai dit oui, pourquoi pas, je ne l'ai pas fait pour Chazelle Benoît, mais je le ferai. Et puis, comment je pourrais vous dire Étant René qui me l'ait demandé, avec tout ce qu'il a fait pour moi, c'était normal que je le fasse.
Quel conseil vous donneriez à des personnes qui essayent d'en sortir?
Les conseils, mais je ne sais pas, parce que chaque individu est différent. Mais il y a un conseil ce qui est sûr, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte d'avoir ce problème d'alcoolisme. Et je pense quand on n'a plus honte d'avoir ce problème d'alcoolisme et qu'on veut s'en sortir, qu'on en parle, je pense qu'on a fait 50% du travail. Après, il y a la volonté. Et l'entourage.
Dans les questions que nous nous posons, comment se sont passées les relations entre vous et les professionnels et vos proches, votre épouse, votre mère, avec les professionnels? Est-ce qu'il y a eu...
Au niveau de Chazelle Benoît, il n'y avait pas de relation entre la famille
Et les soignants.
et les soignants, non. Il y avait juste que les soignés et les soignants qui avaient des relations. Mais après, il y a eu beaucoup de. J'ai su après beaucoup de relations, de conversations, de discussions avec René et ma femme, parce que ma femme travaillait chez René. Donc tous les jours, il demandait comment va Christophe. J'étais un peu surveillé avec René H24.
Oui, il n'y a pas eu de... Vous n'avez pas souffert non plus d'incompréhension entre les soignants
Non.
et votre entourage.
Non.
De fait, de la présence de René,
Ah oui,
ça
oui,
permettait
oui.
de favoriser les relations et les choix thérapeutiques. C'est pas toujours le cas.
Oui, il y a des gens qui sont vraiment seuls, seuls et
ouais.
Là, je pense que ça doit être très dur.
Ouais.
C'est.
Bien, Amandine, tu voudrais intervenir pour demander quelque chose à Christophe?
Bah c'est vrai, quand on a parlé de votre maman. Son ressenti, c'est qu'elle était désespérée. Mais après, par la suite, quand vous avez eu le déclic, que vous êtes fait soigner, comment elle vous a aidé et comment elle a pu aussi remonter la pente?
Elle m'a aidé avec les paroles d'une mère, hein, une mère, comment vous dire, est toujours est désespérée, mais elle a toujours confiance à ses enfants. Donc je pense qu'elle m'a fait confiance et elle faisait partie de mon entourage, donc elle était avec tout le monde, tout le monde était dans le même sens, donc elle aussi, j'arrivais chez elle, aussitôt, allez Christophe, on boit un café, alors ça par exemple du café j'en ai bu, des cafetières et des cafetières, c'était, et ça s'est passé d'un seul coup. Mais je suis sûr que je buvais 3-4 cafetières par jour. Donc on buvait un café, on mangeait un gâteau, on discutait. Puis après, c'est comme tout, au fil du temps, ben, on oublie ce problème. Et puis on a des médicaments de compensation, on a pas mal de choses. Et on a son entourage. J'allais voir ma mère le matin avant de partir au boulot. On buvait un café, je retournais la voir le soir. Voilà quoi. Après. Après, je pense dans le temps, ça se passe tout seul quand on est bien encadré. Les gens savent ben, ça nous faire oublier tous nos déboires, si on peut dire. Ben, ça se passe.
Et je peux encore poser une question? Je peux encore poser une question?
Oui, vas-y, bien sûr.
Vous avez deux enfants, un fils et une fille,
oui.
Alors
Marie et Louis.
Vous avez beaucoup parlé de votre fils et votre fille, alors, dans tout ça?
Ben, ma fille, c'est pareil, elle était toujours auprès de moi. J'ai parlé de mon fils tout à l'heure, on faisait du vélo le matin, mais ma fille était aussi avec nous. Et on faisait pas de vélo, mais l'après-midi, on allait soit à l'océan, soit à la piscine. On faisait beaucoup d'activités, même avec ma femme, tous les quatre. Elle était aussi là. Hein. Il y a pas de souci. Des activités qu'on faisait plus du tout. On partait en vacances. Et ben moi je me mettais dans le mobil-home et puis je dormais quoi. Voilà. Ma fille est venue aussi. Est venue comme mon fils à la chasse. Même tous les deux ensemble avec moi. Il y a pas aux champignons. Ma fille a des chevaux de trait, des Bretons. Eh ben, c'est pareil, on s'est mis à se occuper des chevaux tous les deux. Elle fait les concours cantonales, le concours départemental de la Creuse avec ses chevaux. Eh ben, on y est tous les quatre. Donc, on a repris toutes ces activités qui étaient mortes. On m'occupait plus de rien. J'ai pas oublié ma fille.
Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est vrai que des fois, La relation papa-fille est différente que la relation papa-fils, et c'est, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un petit peu la vision qu'elle avait envers vous.
Et je me rappelle de, vous allez dire, vous parlez encore de votre fille, je me rappelle de Louis, quand j'ai voulu reprendre un permis de chasse. Et je lui ai dit, je reprendrai bien un permis de chasse, mais le problème, il y a ces fameuses cabanes de chasse. Donc, là, il m'a dit, je vais avoir un peu les larmes aux yeux. Il m'a dit, papa, on va y aller, et ils te feront pas boire. Voilà.
Oui. Bon, vous savez, votre témoignage est très précieux parce qu'il montre à quel point vous avez pu réunir toutes les conditions les plus favorables pour en sortir. Ça, certainement que vous étiez sur une pente quand même sévère.
Ah oui.
Et vous avez pu vous en sortir grâce à toutes ces conditions que vous avez évoquées. Merci.
C'est moi.